Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des personnes plus singulières que d'autres, c'est le cas de mon invité de ce matin, femme de foi, plutôt cérébrale, c'est le moins que l'on puisse dire, artiste et amie de ces derniers, cette femme le semble faire partie de la famille d'âmes, des assoiffés d'absolu, un peu comme Sylvain Tesson, bien qu'il s'en défende et s'en prie Renaudot. Une femme que la Providence a fait atterrir, si je puis dire, dans la région toulousaine et qui a décidé de faire de sa maison familiale, aux portes de la Ville Rose, un lieu source pour les chercheurs de sens en tout genre. Claire Bresselette, l'absolu aux portes de Toulouse. Rien que ça, vous rendez compte? Je vous mets la pression, hein. Bonjour Claire Bresselette, vous êtes professeure et docteur en lettres et donc fondatrice de cette association qu'on va découvrir au fil de cette émission Culture au village dans, je ne sais pas si c'est un village ou une ville, Roufiac-Tolosan. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour cher public et auditeurs. Alors c'est une petite commune de 2013 habitants, Roufiac-Tolosan. Et nous avons hérité de cette maison familiale au mois de juin, puisque maman est décédée fin mai. Et tous les quatre enfants en Bresselette, nous avons décidé d'en faire un lieu où différents milieux qui ne se côtoieraient pas d'habitude pourraient se côtoyer.
Alors, on va y venir, mais on va essayer de faire les choses dans l'ordre. On va commencer par faire connaissance avec vous. Les auditeurs ont l'habitude hein, de ces émissions un peu séquencées pour prendre le temps. Vous êtes donc docteur en lettres, donc on va faire connaissance avec vous, votre histoire. Vous êtes docteur en lettres parce que vous avez fait une thèse sur Jacques Maritain et sa correspondance. On prendra le temps de parler de Maritain, de le refaire découvrir. Et puis à la fin de l'émission, on parlera un peu plus de culture au village. Alors si on commence par le début, Claire Bresselette, parce que tout arbre à ses racines. Votre famille est une famille toulousaine. Votre père a été vice-président de l'université du Mirail. Comment vous présenteriez brièvement votre famille ?
De mes parents, je retiendrai en un mot l'humilité. Tous deux sont brillants, maman normalienne de l'école de Sèvres, physicienne, agrégée, choisit de ne faire sa carrière que dans un seul poste. Le lycée Raymond Nave, 33 ans de lycée Raymond Nave. Papa, brillant, trois fois premier collé en normal sup à Ulm, c'est un coup du destin, décide de se donner complètement dans son métier. Et il fonde aussi, au sein du Mirail, un groupe d'études bibliques avec son collègue angliciste Maurice Montabru. Donc des chrétiens ouverts au monde, à la différence, très simple. Nous avons une éducation qui n'est pas du tout, j'allais dire, normative ou dogmatique en religion. C'est bien sûr les années 70, on est tous éduqués à la guitare dans l'église, mais avec une grande liberté. En fait, ils nous ont centrés sur le Christ, sur l'autre, sur la joie de vivre.
Alors, c'est une famille toulousaine. Les Bresselettes, c'est un nom relativement connu. Vous me disiez même que vous aviez un tout proche ancêtre qui avait été, je crois, vice-recteur ou recteur de l'Institut catholique de Toulouse, c'est ça ?
C'est mon oncle, Claude Bresselette, le frère aîné de papa. Alors, famille toulousaine, oui, par adoption, non par racine, puisque c'est plutôt une racine auvergnate. Ce sont les mutations de la vie, les aléas de l'éducation nationale. Claude Bresselette est toujours en vie. Il est maintenant, il rend des services dans la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Paris, après avoir été pendant 10 ans responsable des églises orientales.
Donc un nom qui peut être en partie connu. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur la foi de vos parents, sans être trop indiscret ? Donc c'était donc des chrétiens convaincus. Des chrétiens convaincus, à la fois ça veut tout dire et en même temps il y a beaucoup de sensibilité ou de chapelle à l'intérieur de l'église, enfin de famille plutôt. Pourriez-vous dire un peu quelle était leur sensibilité d'église ou pastorale ?
Oui, c'est une très bonne question. Alors maman est issue d'une famille où l'on ne croyait pas. Mon grand-père est un positiviste qui ne croyait que dans le QI. Il se trouve qu'un normal sup, l'aumônier, c'était le cardinal Daniel Loup. Et maman a été séduite par le discours et la vie du cardinal Daniel Loup. Papa était au groupe Tala, ceux qui vont à la messe, hein, les normaliens.
Et donc c'était le groupe des catholiques pratiquants à normal sup.
Oui, voilà. Et ils ont eu, trois maîtres qui les ont guidés au moment de leur fiançailles. Le père de Saint-Saëns, qui est un scientifique jésuite. Maman Annette, qui était une femme très simple, qui avait une maison d'étudiants, et papa était étudiant dans cette maison. Pour vous donner un exemple, il y avait simplement une boîte où on pouvait mettre de l'argent et se servir. C'était très simple. Elle n'achetait jamais les poireaux chez le même commerçant pour qu'il y ait une certaine justice. Une foi concrète. Et la troisième figure, c'est Jacques Maritain. Donc papa, apprenant la mort de Raïssa par le journal.
Donc épouse de Jacques Maritain, voilà, voilà. Grand philosophe français, on y reviendra.
Se met à lui écrire en lui disant, voilà, j'ai lu pendant l'été plusieurs de vos ouvrages. Je compatis à votre souffrance. Et du coup, une amitié s'en est ensuivie. Elle comporte 70 lettres qui sont déposées à BNU, Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg. Et surtout, quand mes parents ont été mutés à Toulouse, ils ont été rencontrés Jacques, qui était auprès des petits frères de Foucault avant de devenir lui-même petit frère de Foucault près de Rangueil.
Alors on y reviendra parce que vous m'avez dit en préparant l'émission aussi que vous aviez été, enfin voilà, vos parents étaient donc en partie intimes de Jacques et Raïssa Maritain, donc vous les avez connus, enfin Jacques Maritain, vous l'avez connu donc à Toulouse quand il habitait près de Rangueil, du couvent actuel des Dominicains, chez les petits frères de Charles de Foucault, on y reviendra après. Maintenant, donc on a compris, vous êtes d'une famille de cérébraux, d'intellectuels même on peut dire, vous êtes d'une famille de cinq enfants. Quatre enfants, pardon. Comment vous définiriez ? Vous êtes quoi ? Vous êtes d'abord une intellectuelle, d'abord une artiste, pour commencer, avant qu'on détaille un petit peu le parcours que vous avez suivi.
C'est très difficile de se définir soi-même. Les autres me définissent comme un tempérament artiste. Intellectuelle, oui, mais je dirais plutôt éprise d'absolu. On dit souvent « clair, c'est un feu ». Alors, je ne sais pas si ça correspond. C'est pas forcément facile à vivre, parce que je suis une femme de passion, d'ascèse. Je crois que quelqu'un qui n'a pas la soif de la vie ne peut pas être un véritable ascète. L'ascèse, c'est finalement pour un bien, dire non à d'autres biens, pas à des mots. Donc c'est un peu la ligne selon laquelle je me définirais. Et il y a un coup. Il y a un coup, c'est-à-dire traverser des nuits ou faire payer le prix de la souffrance. Voilà.
Vos études, parlez-nous un petit peu de vos études. Donc vous avez commencé par des études de lettres, après vous avez fait des études de philosophie, après vous avez même fait des études de théologie. On va pas forcément complètement détailler, mais si vous deviez un peu nous donner les grandes étapes, bref, vous avez toujours passé un peu votre vie à étudier, c'est comme ça qu'on pourrait résumer.
C'est un très bon résumé. Je suis une éternelle étudiante. Je suis encore en Master 2 actuellement au Mirail.
En philosophie,
voilà. La philosophie a été toujours, mes premières amours. Les lettres aussi, la poésie par papa. Dès qu'il voyait un coucher de soleil, un océan, il y avait toujours les vers appropriés. Donc ça me fascinait, cette bibliothèque permanente qu'il était. Et puis cette bibliothèque au service de l'humain.
Vous me disiez que c'est vous, chez vous, vous aviez 100 mètres linéaires, c'est comme ça qu'on dit, de livres ?
De livres, de dossiers, de lettres, c'est pour ça qu'on voudrait faire un centre culturel, une bibliothèque. J'ai fait ça à la louche, mais c'est quand même important.
C'est significatif en tout cas.
Voilà.
Alors juste sur vos études, vous pouvez préciser un petit peu, donc vous êtes surtout donc docteur en lettres, vous avez fait donc une thèse sur Maritain, sur ses correspondances en Roumanie, c'est ça ?
C'est exact. Alors, je suis toulousaine pour les Ibocagne et Cagne, Saint-Sernin, Fermat. Et puis ensuite, je me suis orientée vers la Roumanie parce que Bernard Hubert a publié, il appartient au Cercle Maritain, a publié un livre sur Maritain et l'Europe. Et il manquait la partie Roumanie. Or, il y avait trois interlocuteurs possibles. Il y en a plus, mais essentiels. Le prince Vladimir Ghica, Benjamin Fondane et un disciple, Ioan Miclea, tout à fait intéressant parce que c'est un prêtre gréco-catholique, marié, ayant quatre enfants, qui fut le premier arrêté par la Securitate le 2 décembre 1948 lors de l'éradication de l'Église gréco-catholique.
Il a été arrêté ?
Il a été arrêté.
Pour sa correspondance
Pour en sa partie. Correspondance avec Jacques Maritain avant la guerre.
Alors, vous avez vécu vous-même en Roumanie.
Oui, c'est exact.
Voilà, pendant combien d'années déjà ?
Ça fait 5 ans en tout.
5 ans, vous avez donc enseigné là-bas à l'Institut français, mais il y a 4 instituts français en Roumanie. Vous pouvez dire un tout petit mot, on dit souvent la Roumanie que c'est le pays latin des Balkans.
C'est une très bonne définition, c'est la porte de l'Orient et c'est une enclave latine. Ce que j'ai aimé dans la Roumanie, c'est la Transylvanie, que je connais davantage, puisque j'étais à Cluj-Napoca.
C'est le pays de Dracula, non ? C'est la Transylvanie ?
Et oui, c'est le pays de Dracula. Et puis c'est surtout, je trouve, un endroit de plaques tectoniques, de sismiques, parce qu'on est dans une tension entre les Hongrois et les Roumains, une tension avec la violence antisémite. C'est un pays où les choses ne sont pas simples. La ville de Cluj m'a fascinée parce que c'est une ville éminemment universitaire où on a encore finalement un humanisme visible. Par exemple, dans les couloirs de philosophie, vous avez des grandes géodes et des pierres précieuses, vous avez des effluves de chimie et de physique, et puis à côté, Saint-Clément d'Alexandrie qui est enseigné au même titre que les mathématiciens les plus grands. Donc on est dans cette concaténation des matières humanistes entre elles.
Comment vous dites concaténation? Concaténation, ça veut dire
concaténa, c'est la chaîne. Donc c'est comme s'il y avait différents anneaux qui ne formaient qu'une seule et même chaîne du savoir.
Si un jour on fait une émission sur la Roumanie, d'ailleurs on serait bien inspiré de trouver une manière de parler davantage de ce pays, évidemment on vous réinvitera. Avant qu'on fasse une première pause musicale, quoique on a encore un petit peu de temps, donc vous n'êtes pas donc en France par hasard, puisque votre maman, vous avez accepté hein, qu'on en parle, ça dit un petit peu qui vous êtes, et puis surtout peut-être que ce que vous voulez aussi offrir dans cette maison familiale et cette association que vous portez, Culture au Village. Votre maman, donc à la fin de sa vie, était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous êtes célibataire et vous avez dit à vos frères et sœurs, je rentre et je m'occupe d'elle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix et puis, sans être trop indiscret, ce qui a été vécu?
Alors, je vous remercie de parler de ces trois années qui ont été pour moi...
Trois dernières années,
puisque maman est décédée fin mai. Qui ont été pour moi des années de plaque tournante, où on prend des résolutions, un autre tournant dans la vie. Donc, j'ai accompagné maman, qui a été atteinte d'Alzheimer et d'un myélome. Un myélome, c'est un cancer des os, pour faire simple. Voilà. Donc, elle risquait des fractures osseuses, des souffrances terribles. L'enjeu était tout simple, c'était faire en sorte qu'elle puisse habiter sa maison dont elle a fait les plans. Elle habite dans ce lieu depuis 50 ans, il y a un beau jardin, il y avait beaucoup de voisinage, des octogénaires extrêmement dévoués, attentionnés, délicats, un milieu paroissial, elle a chanté pendant 30 ans à l'église. Donc on se tenait, tous les quatre, nous tenions à ce qu'elle reste dans cette maison.
Votre papa était parti depuis longtemps ?
Depuis 11 ans déjà.
D'accord.
Et effectivement, pari gagné, nous avons eu beaucoup de chance. Parce qu'elle n'a pas souffert, je lui fermais les yeux, entourée de sa sœur et d'un ami. Alors, mon expérience auprès d'elle, c'est que j'ai reçu plus que ce que j'ai donné. Je ne sais pas comment vous expliquer. On dit souvent que Alzheimer change la personnalité, que la personne est déjà partie. Et j'ai l'expérience exactement inverse. Même si elle était altérée dans ses facultés cognitives, j'ai eu le sentiment que son être profond était profondément identique à des lueurs dans le regard, à des expressions de sourire, à une manière de se poser avec moi, même s'il y a eu toutes les phases propres aux Alzheimer, le problème de la violence, le problème de l'envie de fuguer, non, parce qu'elle était chez elle, mais de sortir des cadres, parce qu'elle a plus ses repères, les problèmes de saleté, d'hygiène, de nuit blanche, où elle déambule dans la maison... Tout le monde me disait « Mais quelle patience tu as !» En fait, je ne m'apercevais pas qu'en vivant en permanence avec elle, je m'adaptais complètement. Et je trouvais toujours des solutions qui font que, quand on m'a dit « Mais il faut te faire aider, tu risques de craquer, les aidants craquent avant les aider. » J'ai dit « Mais oui, mais pourquoi ? Pourquoi ce discours sécuritaire alors que je reçois davantage ?»
Vous m'avez quand même dit, en préparant l'émission, que par moment, vous vous rendiez compte que... Vous commenciez à réfléchir presque comme en étant Alzheimer, non ?
Tout à fait. Quand le lexique se réduit à « c'est ça, c'est pas ça, il n'y a plus de mots », je me suis rendu compte que moi-même, j'étais imprégnée dans une diminution totale, ben, au plan psychologique, au plan intellectuel, d'où mon inscription en master de philosophie, d'où mon entrée dans Deux Cœurs Toulousains, dirigée par Stéphane Delincac, à Bout de Souffle et Toulouse-Garonne. Tout simplement, là aussi, j'ai beaucoup reçu, j'ai été aidée par les cœurs, par le plan social et par le contenu qui est toujours très beau. Mais, j'allais dire, il y avait en moi la fascination du père Surin. Je ne sais pas si vous connaissez ce jésuite, Joseph Surin, qui pendant 20 ans a été comme, on va dire, sous l'emprise du démon. Et il y a consenti. Et il a traversé, puis il en est sorti. Et pour moi, être chrétienne, c'est consentir aux situations. en consentant à accompagner maman, c'est pas en me mettant des barrières sécuritaires pour me dire au cas où je flancherai, allons tout de suite en EHPAD pour moi. Il y avait un discours à un moment, il fallait mettre maman en EHPAD pour me préserver. Mais non, dans ce cas-là, il faut rayer du calendrier les trois quarts des saints. Parce qu'un Saint-Louis de Gonzague, il meurt à 24 ans, mais il prend un risque. Le risque fait partie de la foi et d'une foi simple. Il s'agit au plan humain d'honorer ses parents. C'est un commandement parmi les 10 commandements, tout simple, et on pouvait le faire. Parce que j'étais célibataire, parce qu'on avait une grande maison, parce que maman avait une bonne retraite. Donc, il ne s'agit pas d'être donneur de leçons, mais de rendre grâce à cette expérience de vie.
Alors juste peut-être un mot supplémentaire avant qu'on fasse cette pause musicale. Peut-être tout le monde n'a pas aussi votre force ou votre force d'âme. Qu'est-ce que vous pourriez sur ce point, en complétant votre propos, dire à ceux qui accompagnent justement des parents malades ou qui se sentent un peu coupables de ne pas arriver à faire face. Qu'est-ce que vous avez découvert en fait, ou qu'est-ce que vous avez vécu aussi avec votre maman pendant cette période?
Avec maman, j'ai vécu une complicité. Et donc, je pense que le sentiment de culpabilité, il faut l'écarter. On ne peut pas faire face. C'est une maladie qui est emportante, j'allais dire. Elle emporte la personne, elle emporte les dents. Il faut trouver des moments de complicité. Il y en a de très très beaux. Un malade d'Alzheimer finit par regarder le ciel et regarder comme un enfant les papillons qui volent, les oiseaux, les avions qui passent, les nuages. Mais ça, c'est l'acte de contemplation par excellence. Et quel bonheur de dire là, il y a le ça, 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 et de montrer du doigt quelque chose qui est dans l'air. Donc je crois qu'il faut s'arrêter là. Et pas de culpabilité, et rentrer dans le grand mouvement contemplatif.
Claire Bresselette, on va faire une première pause musicale, et puis on va vous retrouver pour continuer cette conversation, et mieux vous découvrir, et puis parler aussi donc, de Jacques Maritain. Donc je rappelle, on l'a dit au début de cette émission, vous avez fait donc une thèse de lettres sur Jacques Maritain, sur sa correspondance avec un certain nombre de personnes vivant en Roumanie. On détaillera pas forcément la thèse, mais on s'attachera à quelques points qui vous tiennent à cœur et qui pour vous sont importants aujourd'hui à redécouvrir de la pensée de ce grand philosophe.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Claire Bressolette, l'absolu aux portes de Toulouse. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi. Et voilà, émission portrait, comme on a fait récemment, entre autres, avec Thierry Marmet, fondateur des soins palliatifs à Toulouse. Il n'y a pas que des gens formidables à Toulouse, mais il se trouve qu'il y en a quelques-uns, donc on en profite. Vous êtes donc professeur et docteur en lettres, et puis fondatrice donc, de Culture au Village. On découvrira cette association que vous avez créée dans votre maison familiale, donc à Rouffiac-Tolosan, aux portes de Toulouse. Mais dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on parle de Jacques Maritain. On avait fait une émission il y a longtemps, 2-3 ans maintenant, avec un autre membre du cercle d'études, Jacques et Raïssa Maritain, que vous fréquentez, qui est le frère Gilles Danroc, dominicain, qui est assez connu de nos auditeurs, qui intervient souvent à cette antenne. Toutes les occasions sont bonnes pour reparler de ce philosophe. Alors je vais essayer de commencer par introduire, on va dire, une courte biographie, et puis je vais vous laisser compléter, même si le propos n'est pas d'abord de faire une biographie. Jacques Maritain, né en 1882, mort en 1973, homme brillant s'il en est, grand donc philosophe. Que dire d'autre ? C'est un converti, il a eu de nombreux amis intellectuels et artistes. On cite souvent Léon Blois, dont il était le parrain, c'est bien ça, hein ? Et donc époux de Raïssa Maritain, qui était donc une juive, elle-même convertie. Ils sont convertis d'ailleurs tous les deux, c'est ça, en montant vers Montmartre.
Oui,
c'est ça.
Tout à fait. Il y a des textes très beaux là-dessus.
Ça, c'est pour la présentation très, très générale. Pourquoi est-il bon et toujours important ? Alors continuez à donner quelques précisions sur sa vie et après, on va dire pourquoi vous pensez qu'il faut rappeler à temps et à contre-temps en ce moment le fond de sa pensée. Sur sa bio, qu'est-ce que vous direz comme complément ? Il a été ambassadeur aussi.
Vous avez dit l'essentiel. L'essentiel, c'est sa conversion. C'est quelqu'un qui est agrégé d'université avant de rencontrer saint Thomas d'Aquin. Il reçoit le baptême à Montmartre le 11 juin 1906, et c'est ensuite une fusée, parce qu'il se dit « mais je ne peux pas rendre compatible la foi et la raison, la philosophie qu'on m'a enseignée et ma foi, comment faire ?» En 1908, découverte de saint Thomas d'Aquin, et du coup, il va devenir l'apôtre des temps modernes. Il se définit comme cela.
Rien que ça, il disait ça de lui-même.
L'apôtre des temps modernes. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que 14-18 a été une grande fracture. Et Maritain voit dans cette fracture de la guerre, donc la fin des empires, la fin d'un monde, la possibilité d'une nouvelle chrétienté qui va appeler l'ère de l'humanisme théocentré. Voilà. Alors après, il va travailler dans les trois plans qui sont découpés de manière traditionnelle dans la scolastique. Vous avez le plan spéculatif pour la connaissance.
Alors juste avant qu'on y vienne, je perds le fil de ma pensée. Juste deux, trois autres précisions. Non, c'est pas grave. C'est comme
oui,
ça.
Oui, ambassadeur.
Ambassadeur. Oui. Est-ce que ça a quand même ça a été aussi une personnalité, pas qu'une personnalité intellectuelle. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, il a participé aussi à la rédaction en partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Tout à fait.
Quelques mots peut-être du personnage, entre guillemets, public ou de l'influence qu'il a eue sur la société française, voire plus largement.
Alors, ce qui fait sa notoriété au plan, j'allais dire, international, ce sont toutes ses réflexions sur la démocratie chrétienne, sur le droit, sur la loi naturelle. Et justement, ces trois années d'ambassade sont très révélatrices de la personne de Maritain, parce qu'il refuse, quand il reçoit une lettre de Bidault, qui lui demande...
Ambassadeur au Vatican.
Ambassadeur près du Vatican, de 45 à 48. Il est alors aux États-Unis, et puis finalement trop tard, l'ordre de mission est donné, le voilà nommé. Et là, on a une magnifique lettre, très humble, où il dit « je ferai de mon mieux ». Et quand vous allez à la Courneuve ou à Nantes ouvrir les archives diplomatiques, vous avez un mot d'un conservateur qui met la diplomatie française a été dominée par une personnalité hors du commun pendant ces années après-guerre, Jacques Maritain. Donc vous avez la preuve, j'allais dire, par des gens qui ne sont pas, j'allais dire, du giron chrétien, que c'est un personnage qui a compté pour le XXe siècle.
Voilà, on peut dire aussi qu'il a contribué au ralliement des catholiques à la démocratie, hein, alors qu'il y avait des grands conflits, c'était au moment de l'Action française, bref. Alors vous l'y insistez dans sa pensée sur deux choses, la personne et la liberté. Alors vous allez nous faire presque un petit cours de philo et je vais aider les auditeurs à pas décrocher, mais surtout c'est votre talent qui va payer. La personne, qu'est-ce que vous vouliez nous partager de ce que Jacques Maritain a dit sur ce sujet ?
Je vais partir d'un schéma très simple qu'il propose dans son œuvre sur l'art, écrite en américain en 1953, « L'intuition créatrice dans l'art et la poésie ». Il propose une anthropologie fondée sur trois cônes, le cône des sens, qui est le plus large, qui nous met en contact avec l'extérieur. Le cône plus intérieur des sens internes, par exemple l'imagination est un sens interne qui permet de faire passer des sens aux idées.
Vous pouvez donner un autre exemple de sens interne, c'est... Je vous piège, c'est pas grave, continuez.
Non, je dirais que l'intuition peut être considérée aussi comme un sens
oui,
interne, d'une certaine manière. Et puis ensuite, vous avez un troisième cône qui est le plan du concept, des idées. Et ces trois cônes, si vous voulez, sont accrochés par leur extrémité pointue dans une sorte de rond, de cercle, qui figure pour Maritain le soi, c'est-à-dire le lieu où l'intuition, puisqu'il s'agit de l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, peut advenir avec plusieurs conditions, c'est-à-dire un travail de la vie intellectuelle. Pour Aristote, là, il y a la vie quotidienne et la vie de l'intellect. Et la vie de l'intellect, c'est-à-dire la vie de l'intelligence, doit se développer dans cette intériorité.
C'est quoi? C'est la vie de l'âme, ce soi, ou c'est...
Alors, c'est justement la vie de l'âme, mais c'est aussi le lieu où la vie de l'intelligence, au sens large, c'est-à-dire qui réunit ces trois cônes, les sens internes et le concept, se développe dans sa plénitude. Vous voyez déjà que dans cette anthropologie, on est loin d'une restriction de l'intelligence à la raison. Et on est dans un schéma beaucoup plus englobant. Par exemple, Maritain parlera de Rouault, en 1920, dans Art et Scolastique, en disant, chez Rouault, il y a le sens intelligentier.
Le Rouault, le peintre. Hein.
Le peintre, Georges Rouault. Le pinceau ne peint pas tout seul. C'est le sens intelligentier de l'artiste qui peint. Donc l'artiste peint avec son intelligence. Donc c'est une expression qui en dit long et c'est, je pense, la grandeur de Maritain qui permet avec cette anthropologie de dialoguer malgré tout avec un autre grand courant du XXe siècle qu'est la phénoménologie. C'est une autre question, un autre débat. Revenons maintenant sur son schéma.
Voilà, vous me disiez que pour lui, en fait, ce qu'il apportait à une anthropologie chrétienne classique, c'est qu'il considérait qu'il y avait comme deux formes d'inconscient dans l'homme. Alors expliquez-nous, parce que l'inconscient, on va dire, théorisé par Freud, ça on voit à peu près, mais le deuxième.
Alors celui par Freud, justement, est hanté, ou est appuyé, est basé, est fondé sur les sens, même si ce sont des sens...
Donc les sens externes, en l'occurrence.
Les sens externes, et en particulier la pulsion sexuelle. Pour Freud, 99% de nos actions sont orientées par la sexualité. Maritain dit c'est très bien, mais il existe un autre inconscient qui, lui, va s'arc-bouter sur ce soi, sur ce point nodal où les trois cônes se rejoignent, et qui, du coup, va concerner la totalité de l'être humain, et il l'appelle le préconscient spirituel.
Alors, les trois cônes, je les rappelle, c'est donc les sens, tout ce qui nous met en relation avec, avec le monde extérieur, ces fameux sens internes, vous citiez l'imagination, et donc, l'intelligence, la capacité à conceptualiser.
À conceptualiser.
Voilà.
C'est pour la connaissance spéculative.
Donc, tout en haut de ce cône, il y a le soi, donc la vie de l'âme, et donc, à l'intérieur de ça, donc il y aurait une forme d'inconscient spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient spirituel? C'est quoi? C'est une mémoire de l'âme? C'est une...
Pas du tout. C'est un lieu qui va être une sorte de nuit obscure. C'est-à-dire que Maritain, dans les degrés du savoir, si vous regardez bien, la dernière partie est développée à partir de Saint-Jean de la Croix pour montrer qu'il y a plusieurs formes de connaissances.
Saint-Jean de la Croix, donc grand mystique, carme.
Carme. Et cette notion de nuit obscure qui est très prégnante dans la poésie de Saint-Jean de la Croix, la vie flamme d'amour, par exemple, elle sert à Maritain pour dire que le préconscient spirituel permet, dans cette nuit obscure, d'être traversé par une intuition qui sert à toute forme de savoir.
Alors juste, je vous arrête pour essayer de bien comprendre. C'est quoi? C'est en fait... comme caché à l'intérieur du haut de ce cône,
oui.
Donc dans ce fameux soi qui serait donc le lieu de la vie intime, la plus intime de la personne.
De la personne, exactement.
Dire. Donc il y aurait une espèce de trou noir qui pour autant serait le lieu du jaillissement de...
Si vous voulez, il n'appelle pas ça un trou noir, il appelle ça un nuage avec plusieurs petits yeux dans l'intuition créatrice, mais on peut dire après tout un trou noir, quelque chose qui va être illuminé par la lumière de l'intuition par la grâce infuse et par l'intuition de l'être en métaphysique.
Alors, qu'est-ce que ça a de... Pardon, hein, mes questions sont, on va dire, râlées pas crêtes, hein, mais qu'est-ce que ça a de...
De novateur.
Voilà, de novateur. Parce qu'on imagine que la pensée chrétienne a toujours imaginé qu'il y avait un lieu à l'intérieur de la vie de l'âme qui était, comment dire, plus grand que l'homme et qui était le lieu, en fait, où l'infini touchait le fini, non ?
C'est... Alors là, on est exactement dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire l'inhabitation trinitaire au cœur de l'homme. Et la nouveauté de Maritain, pour moi, c'est au plan philosophique de pouvoir, à partir de cette anthropologie, montrer que la philosophie a changé de statut par rapport à la théologie. Elle n'est plus dans un rôle ancillaire, c'est-à-dire un rôle de servante, comme Saint-Pierre Damien le définit, mais elle va être dans un rapport d'organicité par rapport à la théologie.
Parce que là, toute sa pensée, c'est une pensée philosophique, c'est pas une pensée théologique.
Voilà, il faut bien comprendre, Maritain n'est pas un théologien, c'est un philosophe. C'est un philosophe qui va essayer de penser comment on peut articuler philosophie et théologie de manière justement non ancillaire, et sa réponse, ça va être organique en donnant un rôle prégnant à plusieurs notions. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de l'intuition, c'est un peu complexe, mais on peut y revenir après. La deuxième notion, c'est la notion d'organicité, qui est très prégnante déjà chez Aristote, mais qui va l'être encore plus chez Maritain. Et la troisième notion, qui est pour moi fondamentale, c'est celle d'analogie, qui va s'opposer à univocité et à équivocité.
Alors, je vous arrête. Est-ce qu'on peut passer donc au deuxième point sur lequel vous vouliez insister ? Peut-être que ça permettra de développer un petit peu plus donc, ce que vous vouliez préciser. Donc, la liberté. Donc, vous dites, je résume, à vous entendre, donc, Maritain aurait en fait fondé philosophiquement on va dire une vision chrétienne de la personne ou une nouvelle vision chrétienne de la personne et donc ça a une incidence pour vous sur la manière dont on peut concevoir la liberté et ça peut éclairer aussi les dérives contemporaines quant à la conception de la liberté. Alors expliquez-nous.
Tout à fait, donc si on part de ce soi...
Ça va, je suis pour l'instant.
Bravo. Si on part de ce soi, finalement, pour être libre, ce n'est pas une autonomie ou une indépendance, c'est dans son rapport à l'autre. Pour faire simple, en philosophie, vous avez le sujet et l'objet. Et dans l'objet, je peux dire qu'il y a le monde, l'autre, le prochain, et puis Dieu, hein, on va, pour faire simple. Donc, dans son rapport à l'objet, le soi est dans un rapport de soumission à l'objet. Et ça, c'est la base continue de Maritain.
Donc soumission à Dieu, en l'occurrence.
Et du coup, voilà, soumission à Dieu, non pas de manière esclave, de manière marionnettiste, ça c'est pour l'Antiquité, mais de manière complètement libre, parce qu'il s'agit d'un Dieu d'amour. Et que nous sommes faits pour la vision de Dieu, c'est-à-dire pour la contemplation. Maritain, dans ses écrits sur la liturgie, a des phrases parfois un peu révolutionnaires, mais il dit « Au fond, au ciel, il n'y aura pas d'Eucharistie, mais il y aura toujours l'oraison, parce que nous sommes faits pour la contemplation. » Du coup, la liberté du soi...
L'oraison, c'est la prière personnelle, enfin,
voilà,
la prière de
c'est
silence.
L'union mystique au Christ. Mmh. Et la liberté du soi, elle est tout à fait... compréhensible dans cette vision finalement finaliste de la vie humaine. On est fait en vue d'une fin qui est la contemplation. Nous sommes in via, nous arriverons in patria après la mort et on est fait pour ça. On n'est pas fait pour autre chose que l'union d'amour. Du coup, l'action qui va être la caractéristique de nos vies concrètes naît de la surabondance de contemplation et pas l'inverse. La liberté du soi est articulé sur cette soumission, mais le mot est très faible, cette orientation d'amour vers l'objet qu'est Dieu.
Alors, en quoi ça vient profondément éclairer la conception contemporaine qu'on a de la liberté et en quoi Jacques Maritain doit être découvert et redécouvert et sa philosophie pour nous aider à avancer dans le monde contemporain avec la bonne lampe de poche, si je puis me permettre d'être aussi trivial.
Alors, je pense que c'est un auteur à redécouvrir parce qu'il pose comme fondement de base le rapport à l'objet. Or, actuellement, c'est vraiment quelque
chose...
Donc
l'objet, je rappelle, c'est pour vous les trois dimensions que sont donc, on va dire, le monde matériel,
c'est ce qui sort du
les
sujet.
Autres et Dieu.
Voilà, c'est ce qui sort du sujet. Il y a le sujet et l'objet.
Je le redis.
Il vaut mieux, parce que c'est vrai qu'on en, c'est en philosophie. Du coup, je prends un débat qui me préoccupe beaucoup actuellement, le débat qui vient de la physique quantique, où on est dans quelque chose d'incertain, où on parle de, il y a plus de vide, donc on dit que finalement le sujet, c'est d'abord lui qui va penser le monde, et que le monde, on n'a plus cette notion finalement de réel, ou plutôt de nous-mêmes, pour reparler en termes quantiques. On ne peut avoir accès qu'aux phénomènes. Et cette dimension donnée au sujet arrive finalement à un relativisme. Et vous avez actuellement un débat qu'il faut écouter. Vous avez Quentin Meillassou, qui est un philosophe physicien, qui a proposé, finalement, qui a fondé en 2006 une école qui s'appelle le réalisme ou le positivisme scientifique, pour remettre finalement de l'objet. Et vous avez la réponse avec Monsieur Beatball, qui lui a répondu en disant finalement qu'il faut toujours tenir compte de la posture du scientifique, qui est un sujet qui va changer de théorie scientifique selon le moment, selon ses découvertes, ce qui est très juste. Et quand j'entends ce débat, je me dis au fond...
Donc une forme de relativisme en fait, de ce qu'est la personne au regard des découvertes scientifiques, c'est-à-dire même scientifiquement, rien ne fonde ce qu'est une personne, c'est ça ?
C'est-à-dire rien. Oui, c'est ça. Rien ne fonde ce qu'est une personne, parce que l'objet est complètement éclipsé. Il est comme, j'allais dire, une sorte de époquet, pour parler en termes husserliens. Il est comme mis en absence, entre parenthèses, au profit du sujet. Mais du coup, rien ne va fonder le sujet en lui-même, sinon la permanence du changement au cours du temps, au cours de son changement intérieur. Et revenir finalement à cette préoccupation du réalisme ou du positivisme, qui est la thèse de M. Meillassou, finalement elle est déjà invalidée. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une sphère scientifique qui est régie par un présupposé d'univocité.
Univocité, ça veut dire ?
X égale 4. C'est un signe mathématique, c'est clair. X égale 4, j'ai un signe qui donne une chose. Équivocité, c'est davantage en poésie. Vous direz bleu. Ça peut être le bleu d'Auvergne, ça peut être le bleu de la mer, le bleu du micro de radioprésence, le bleu des yeux, je ne sais pas quoi. Voilà, le bleu. Et pour faire simple, l'analogie, c'est finalement articuler l'un et le multiple. Pour un principe 1, il va s'incarner de manière différente. Et ça, c'est très fort, parce qu'on ne peut pas penser l'être de manière ni univoque, ni équivoque, on le fausse.
Alors juste, là je ne suis plus. Donc qu'est-ce que Maritain vient apporter à ce débat contemporain, on va dire, où on a l'impression que...
À ce débat contemporain...
On a une vision complètement relativiste et positiviste, comme vous dites. Donc,
et elle ne peut être
de la personne
que relativiste, parce que le présupposé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maritain qui analyse finalement l'époque médiévale, l'époque de la Renaissance et l'époque actuelle, autour de ces principes d'univocité ou d'analogie. Il reprend, pour faire simple, la querelle nominaliste ou la querelle réaliste qu'on a au Moyen-Âge. Et finalement, il dit « La science actuelle, telle qu'on l'a pensée, est régie par le principe d'univocité. » Et donc, pour revenir à ce qu'il peut apporter, dans le débat actuel où on sent des gens qui veulent revenir à du réalisme, par exemple Quentin Meillassou, il le fait, mais de manière, j'allais dire, pipée au sein d'un contexte univociste. Ou nominaliste, si vous voulez. Du coup,
dites-nous la même chose avec des mots plus simples, parce que là, on a pu vous suivre.
Au sein d'un contexte où X égale 4, et on n'a pas le jeu, la souplesse, l'intelligence de l'analogie qui permet de faire droit au réel et d'articuler l'un et le multiple, si c'est plus simple. Du coup, pour moi, Maritain est un auteur à redécouvrir, aussi bien pour la liberté, pour la personne, que pour l'analogie de l'être, parce qu'il repense la relation du sujet à l'objet, évidemment dans une perspective chrétienne, mais qui ne peut être que juste. Je vois notre monde qui est régi par ce principe d'univocité. On dit qu'il va dans le mur. Bon, c'est un discours très pessimiste. Je pense que non, mais... Quand même, on est dans une prégnance de l'univocité qui fait que l'homme est devenu finalement un simple opérateur. Quand vous rentrez sur Internet, vous avez une démarche administrative à faire, vous cliquez oui, non, c'est très binaire. Et tout le monde étouffe dans un monde où on est sur des rails, l'autoroute, vous trompez d'un péage, il faut faire 100 km de plus, vous oubliez un point sur Internet, tout est faux. Et tout est comme ça. c'est le règne de l'univocité. Et du coup, la liberté humaine est confondue avec l'indépendance, l'autonomie, où elle est réduite parce qu'on a réduit l'homme à la raison. Et au lieu de la penser dans cette anthropologie dont je vous parlais, avec une intelligence qui fait droit à ces trois cônes.
Voilà, et qui fait droit à Dieu, en tout cas, d'un homme finalisé vers Dieu, et donc qui soumet son intelligence aussi à qui est Dieu. Vous ne nous avez pas trop perdus, ça va. En tout cas, moi, j'ai presque suivi Claire Boisselette. On fait une deuxième pause, et bien, on va parler de Culture au village. C'est un lieu où on peut vous suivre plus longuement, donner des cours de philosophie et de littérature. Enfin, en tout cas, vous et d'autres, je crois. C'est donc un lieu aux portes de Toulouse, à Rouffiac-Tolosan. On fait une courte pause et puis on vous retrouve pour nous présenter ce qui se vit là-bas.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Claire Bressolette, l'absolu aux portes de Toulouse, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, découverte donc de cette femme et puis entre autres donc, de cette association dont on va parler. Vous êtes donc professeur et docteur en lettres, je l'ai dit aussi membre du cercle d'études Jacques et Raïs à Maritain. On a compris pourquoi donc, vous étiez aussi une philosophe de haut vol, même si ce n'est pas votre première formation, et donc fondatrice de Culture au village à Rouffiac-Tolosan. Alors, vous nous avez dit au début de l'émission que vous aviez accompagné votre maman dans la maladie d'Alzheimer, que vous lui avez, et vous avez dit ça magnifiquement, fermé les yeux à la maison, à votre maman. Et puis derrière, avec vos frères et sœurs, donc vous avez décidé dans la maison familiale de fonder une association qui s'appelle Culture au village, où on peut venir. On va en parler, il y a de multiples propositions. Juste, qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Comment vous résumeriez l'intention profonde? On peut trouver sur votre site un lieu d'accueil pour trouver sa charpente personnelle.
Oui, alors pour faire le lien avec Maritain dit « l'homme se nourrit de transcendantaux ». Les transcendantaux, c'est le bon, le bien, le vrai, l'un, l'être. Et donc, je voulais un lieu où on puisse se nourrir de transcendantaux et un lieu où tous les milieux puissent se croiser, des milieux qui ne se croiseraient pas ailleurs. Donc l'idée est partie de là. Nous proposons quatre activités, Donc, de manière classique, les concerts, les conférences, des ateliers, c'est-à-dire 8 heures d'atelier sur certains week-ends, qui vont de la reliure, de la dégustation de vin ou de thé, jusqu'à l'atelier philosophique, comment commente-t-on et lit-on un texte philosophique, en passant par l'atelier vocal, la pose de voix. Et la dernière activité, alors là, elle est propre à Culture au Village, ce sont les soirées, dites troubadour. C'est simple, c'est une auberge espagnole culturelle, chacun vient, mais si vous êtes là, vous devez apporter une œuvre culturelle. Ça peut être un haïku, si vous avez peur.
Donc c'est pour des poèmes japonais.
Voilà, ça peut être du piano à quatre mains, ça peut être un lead, ça peut être un commentaire de toile, mais c'est un partage culturel. Et je peux vous dire, on se fait plaisir. Parce qu'on revisite du La Fontaine, du Victor Hugo, du Schubert, du Bach, de manière très simple. C'est un espace-temps pour des amateurs comme des professionnels. On n'est pas jugé, on partage.
Alors justement, c'est la question que j'avais vous poser. On n'est pas jugé. Vous êtes quand même très, enfin, une intellectuelle brillante. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça intimide à qui cela se destine? Peut-on venir, même si on n'est pas un grand intello et un grand artiste, et si on ne connaît pas tout La Fontaine ou tout Victor Hugo?
Oui, l'idée, c'est justement de, j'allais dire, déranger les frontières et pas de déplacer. C'est-à-dire de proposer un autre ordre. C'est bien Maritain. Maritain dit, on sort d'une antinomie en montant plus haut, en passant à un autre ordre. Et là, l'ordre, c'est quoi? C'est l'humain. C'est-à-dire, on est bien ensemble. Il se trouve que moi, je connais un peu Kant ou un petit peu Chopin, ben, je vous le partage. Il se trouve que moi, je ne connais pas, j'aime bien Au clair de la lune, et ben, je le partage. C'est chacun dans ce partage pour toucher le cœur de l'homme.
Alors, vous me disiez aussi que pour vous, il y avait une urgence, c'est le lien. Alors, comment vous expliciteriez ce que vous vivez comme une urgence personnelle?
C'est une urgence personnelle dans nos sociétés. Tout à l'heure, je parlais de rails, de péages, d'autoroutes, de métro. Voilà. Je pense qu'il faut se donner des espaces-temps de parole, de liens, d'écoute, où le maître mot soit la vulnérabilité. Je reprends cela un livre de ma sœur Agnès, qui travaille dans les soins palliatifs. Elle a écrit en 2015, je crois, « Née vulnérable », un petit livre sur son expérience. Ça m'a beaucoup marquée. Et je pense que mettre en commun sa vulnérabilité permet le lien et la rencontre.
Et pourquoi c'est une urgence dans nos sociétés, si on essaie de mettre en perspective?
Parce que c'est exactement à l'opposé. Nos sociétés demandent la performance, le défi. Même dans les salles de sport, vous voyez les gens qui sont là pour une performance, savoir si leur muscle a pris un centimètre de plus, s'ils ont dépassé leur propre performance. Et c'est une construction qui est liée au phénomène urbain où l'homme construit et se construit. Et là, je voudrais exactement l'inverse. Proposer, non pas une déconstruction, mais une assise. Donc, par exemple, opposée à la mobilité permanente, l'assise. Nous avons construit deux ermitages en bois qui sont ouverts à tout le monde. Vous voulez un week-end déconnexion, vous venez et vous êtes vegan, altermondialiste, vous pouvez. Vous voulez au contraire découvrir la patristique avec Origène ou Saint-Jean Chrysostome, vous pouvez, puisqu'ils sont à la maison. Voilà.
Vous me disiez qu'avant, les missionnaires bougeaient. Aujourd'hui, un missionnaire, c'est quelqu'un qui doit savoir se tenir dans un lieu unique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je pense que si la patronne des missions Sainte-Thérèse de Lisieux, l'assise, la garde de la cellule, et donc du fait de la cellule physique extérieure, ce sera aussi la cellule intérieure, c'est l'urgence de notre temps. C'est se poser, s'enraciner, sinon on tombe dans le repli identitaire, mais trouver une racine qui est la racine du soi, de cette vie de l'intellect dont parlait Aristote, qui est la vraie vie de l'homme, sinon nous devenons des gérants. Ou alors nous sommes vécus par tout ce qu'il y a à faire. Quand je vois ma boîte aux lettres, j'ai l'impression en ouvrant la boîte aux lettres d'une avalanche de choses à faire, ou le mail, etc. Et au lieu d'être vécu, ben de vivre sa vie, donc de voler ces espaces-temps qui sont proposés le week-end ou sur des vacances, et en particulier avec aussi l'apprentissage de la cesse, voire de l'ennui. Dans un ermitage de 5 mètres carrés, si on décide de garder la cellule, l'assise à la cellule, on va vite s'ennuyer. Parce qu'on est habitué à zapper, à être en permanence occupé, un moindre feu rouge, on allume le portable pour répondre à un SMS. C'est exactement à l'opposé.
Sur la proposition spirituelle, pour ceux qui seraient tentés, on peut se dire, mais pour qui se prend Claire Bresselette, est-ce qu'elle va pas, ça va pas virer au gourou, vous êtes accompagné par l'Église, on va dans vos ermitages, on peut s'essayer à la prière en étant accompagné par vous, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous ?
Oui, c'est une association, nous sommes 7 dans le bureau, le vice-président et le curé de la paroisse, j'en ai même parlé à notre évêque, je suis très vigilante à ce que ce soit ni gourou, ni une laïque qui soit pas à sa place, parce que pour que le monde marche bien, c'est chacun à sa juste place, c'est tout simple. Il se trouve qu'on avait cet outil, cette merveilleuse maison avec un beau jardin, et qu'on s'est dit, voilà, on se lance, on crée une association. Je pense qu'il n'y a pas de risque de gourou. Le maire de la commune de Roufiac soutient vraiment notre association, et il m'a encore félicité pour le dernier concert donné par À bout de souffle dans l'église de Roufiac fin novembre. C'était vraiment un très grand moment pour tous de beauté, d'intériorité et de relation du cœur avec le public.
Votre rêve, c'est quoi ? C'est que les jeunes qui sont sur le bord de la Garonne, qui peut-être cherchent beaucoup plus l'absolu qu'on l'imagine, plutôt que de partir, de prendre la route, comme certains le font aujourd'hui, c'est qu'ils finissent de fil en aiguille par tomber chez vous ?
Oui, j'avoue que c'est plus qu'un rêve, c'est un désir. J'ai orienté cette maison pour les jeunes. Pour le moment, personne dans les ermitages. Vous demandez s'ils étaient fréquentés, bon, ils sont encore, ils sont pas électrifiés, par exemple. C'est vraiment très spartiate. Mais c'est ça, mon rêve. C'est une maison où il y a justement, on a pas mal de transgénérationnel, mais surtout une fréquentation des jeunes.
Qu'est-ce qui vous fait dire que les jeunes cherchent ça ? Vous les avez quand même fréquentés pas mal en étant prof de lettres. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager de ce que vous connaissez de la jeunesse ?
Alors, j'ai 12 neveux et nièces qui sont tous des gens, j'allais dire, engagés dans des convictions fortes. Alors, des convictions fortes par rapport à la planète. On voyage en bus plutôt qu'en avion. On mange très peu de viande. On est capable de vivre avec 11 degrés dans la maison. Et ça, c'est impressionnant. Ce sont des gens qui s'engagent, qui essaient d'être cohérents dans leurs études, qui aiment beaucoup la danse.
Mais en dehors de votre famille, pour les jeunes que vous avez croisés en étant enseignante, parce qu'on peut se dire que dans votre famille, peut-être c'est encore un peu particulier, est-ce que cette jeunesse que vous avez rencontrée, vous diriez qu'il y a une grande soif d'absolu, et qu'est-ce que vous auriez pour nous en donner la preuve ?
Alors, la preuve, c'est que j'ai monté pendant des années un atelier théâtre, et le principe était de faire jouer toute la classe sur des tragédies antiques. Bon, du Sophocle, on a monté Antigone, mais aussi des tragédies classiques françaises. Et l'administration elle-même m'avait dit « Mais vous êtes folle, vous êtes complètement folle. » Et quand on voyait ces jeunes qui étaient hippies à l'époque, avec des crêtes, des boucles d'oreilles, parce que j'ai travaillé aussi en ZEP, transcendés, ils étaient transfigurés, transcendés par les vers racéniens, je vous assure que le pari était gagné.
Eh ben merci beaucoup Claire Bresselette, ça donne envie de venir en tout cas chez vous. On va donner donc le site de l'association Culture au Village, tout accroché, cultureauvillage.fr. Le prochain rendez-vous, eh ben, c'est tout simplement demain à 16h. Allez, présentez-nous la soirée pour finir.
Alors demain, j'invite Christian Poquet, peintre contemporain. Il est exposé aux abattoirs à Toulouse. Et Jean-Benoît Meybeck, qui est auteur de bande dessinée. Jean-Benoît va nous parler donc du phénomène migratoire à partir de sa bande dessinée. Il signera son dernier album. Et Christian Poquet nous parlera de l'urbanisme à partir du quartier de Bordeaux-Rouge qu'il a peint.
Parce que le thème de la soirée, c'est ?
Urbanisme et phénomène migratoire.
Merci beaucoup Claire Bresselette. Je redonne une dernière fois le nom de votre site nous conduisent donc à Roufiac-Tolosan, cultureauvillage.fr. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.